L'océan, vaste mystère vivant, abrite les secrets les plus précieux de notre planète. Tom Fraget, chanteur français passionné et engagé, nous plonge dans son univers à l'occasion de la sortie de son nouvel album au titre évocateur, Septième Continent.
Quand on parle des océans, l'océan, ça n'est pas que les vacances à la plage. L'océan, c'est une source de biodiversité extraordinaire. C'est pour certains un métier parce que le surf, mais c'est pour d'autres le garde-manger de la planète. Je m'appelle Tom Fraget. On m'a découvert avec une chanson qui s'appelle Lady Melody en 2009. J'ai une première vie de surfeur professionnel en équipe de France, reconverti dans la musique il y a 20 ans. Et je prépare la sortie d'un cinquième album qui arrive au mois d'octobre et qui s'appelle Septième Continent. Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Lorsque j'ai décidé de troquer ma planche de surf pour ma guitare, au quotidien en tout cas, puisque je continue de pratiquer les deux, je me suis rendu compte que j'étais derrière un micro et que j'écrivais des chansons. Et donc, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit quels sont les thèmes qui comptent vraiment pour moi. Alors je vais parler d'amour, d'amitié, de tolérance, de voyage. Mais il y a des sujets un petit peu plus importants qui me touchent, notamment celui de la pollution des océans. Ayant grandi dans les vagues toute ma vie, lorsque j'ai vu arriver les premières marées noires dans les Landes, à l'époque c'est un bateau qui s'appelait le Prestige, c'était en 2004 si je ne dis pas de bêtises, 3, 4, 5 par là, c'était la période où j'écrivais mon premier album et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'écrire sur ce sujet. Et de là j'ai commencé à m'investir avec des associations, Surfrider Foundation, Cetaci, Sea Shepherd, plein de gens. Et puis voilà, j'ai chanté pour sensibiliser à la protection des océans. Et là, cette année, donc 20 ans plus tard, j'ai décidé d'aller encore un petit peu plus loin dans mon engagement et j'ai créé une association qui s'appelle Le Mouvement Bleu, avec laquelle j'essaye de mêler mon activité artistique à mon engagement écologique. En reversant une partie des bénéfices de mes différents projets au service de la protection des océans. Bon, les premiers souvenirs que j'ai de mon rapport à l'océan, c'est donc je suis né au Sénégal, j'ai grandi un peu à Dakar, j'étais tout petit, hein, jusqu'à 5 ans on va dire. Après je suis parti vivre à Bamako au Mali. Donc de ces premières années, effectivement, à Dakar, mon père faisait de la planche à voile et il me faisait monter entre lui et la voile sur la planche. Je m'accrochais à ce qu'on appelle le wishbone au-dessus comme ça. Et donc j'avais 4 ans peut-être et c'est mon premier vraiment contact, je dirais, à l'océan, quoi. Et ensuite on est parti vivre en Guadeloupe et là je me suis mis à surfer vraiment à fond et j'ai été rapidement repéré par la Fédération Française de Surf qui m'a intégré à l'équipe de France un peu plus tard.
Parce qu'on n'est rien sans elle, parce que la nature ne parle pas, et surtout parce que le temps nous est compté. Parce que le septième continent nous rappelle que sous les emballages et les côtes-barres, il y a l'océan qui nous apporte.
Quand on parle des océans, l'océan, ça n'est pas que les vacances à la plage. L'océan, c'est une source de biodiversité extraordinaire. C'est pour certains un métier parce que le surf, mais c'est pour d'autres le garde-manger de la planète. Les Sénégalais, par exemple, puisque je suis né là-bas, j'en parle. Ils sont tous pêcheurs. C'est leur vie, l'océan. Et malheureusement, ils n'ont pas toujours la conscience écologique. Mais pourquoi ? Parce que déjà, les Sénégalais, l'écologie, c'est aussi un petit peu c'est un problème qui concerne tout le monde, mais c'est une préoccupation de riches. Dans le sens où, quand tu as déjà besoin de remplir de manger, c'est difficile de te préoccuper du reste, quoi. Donc au Sénégal, par exemple, il y a toute une campagne de sensibilisation qui a été faite, là, à laquelle j'ai participé, pour essayer d'apporter aux populations locales un regard un peu différent sur l'océan qui les entoure et leur rappeler que justement, c'est ce qui les nourrit et donc il faut en prendre soin, il ne faut pas déverser les déchets de la ville à Dakar dans l'océan, etc. Voilà. Alors cet album, il a la particularité d'être complètement donc orienté. Toutes les chansons ont un lien à l'océan. J'ai décidé de l'appeler Septième Continent parce que c'est le nom qu'on donne au continent de plastique qui en réalité est un amas de déchets plastiques réunis par les courants dans le Pacifique. On l'appelle le Septième Continent parce qu'il fait la taille d'un continent. Et il faut imaginer que ça fait plusieurs fois la France qui flotte de déchets plastiques à la surface de l'océan Pacifique. C'est quelque chose de complètement hallucinant. On n'en parle pas tant que ça, je trouve. Et donc voilà, je trouvais que symboliquement, c'était fort d'appeler l'album comme ça pour un petit peu alerter les consciences sur ce qui se passe. En fait, je me suis dit qu'on serait plus fort à plusieurs pour porter ce message. Donc je me suis dit que j'allais faire un album de duo exclusivement. Donc en l'occurrence, là, c'est 14 duos avec des artistes venant d'horizons très différents pour montrer qu'en fait, ce sujet important qu'est la préservation des océans, c'est un sujet qui touche tout le monde et pas juste les surfeurs comme moi. Donc voilà, j'ai différents profils d'artistes sur cet album. On a Ben Mazuet, dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a Guillaume Grand, il y a Peps. Il y a Danakil, un groupe de reggae, le groupe de reggae français, je dirais, du moment. Tiken Jaffa Coli, qui est quand même, je dirais, le chanteur d'Afrique de l'Ouest le plus, aujourd'hui, le plus en place sur la scène. Toutes les chansons ne parlent pas de protection de l'océan. Toutes les chansons ont un lien à l'océan. Mais par exemple, avec Zao, c'est une rupture amoureuse que j'ai tournée sous forme de bataille navale. Voilà, Touché Coulé, elle s'appelle. Voilà, il y a des choses très différentes. Avec Peps, on a fait un titre qui moi je trouve est très très poignant parce que ça parle des migrants qui quittent l'Afrique en montant sur des bateaux de fortune pour en ayant en tête que de l'autre côté de l'océan ou de la mer il y a une nouvelle vie pleine d'espoir en Europe. On aborde comme ça dans l'album des thèmes très très variés autour de l'océan et quand même Monsieur Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, dont on a beaucoup parlé puisqu'il était retenu au Groenland pendant des mois l'année dernière. Paul Watson, il n'est pas venu chanter, mais il nous a fait l'honneur d'ouvrir l'album avec un petit message assez court, qui dure 50 secondes, très fort sur l'importance de la légitimité des artistes à parler des choses importantes. Et donc c'est un beau message qu'il nous livre sur l'importance de préserver les océans, et j'ai mis tout ça en musique, voilà. L'écologie, c'est quelque chose qui peut rapidement devenir un peu réprobateur. Donc au bout d'un moment, les gens disent « ouais, c'est bon, ils nous emmerdent, les écolos, etc. » Moi, je peux comprendre d'ailleurs, mais je pense que c'est vraiment important d'une part de prendre conscience de là où on en est aujourd'hui, mais on a des scientifiques qui nous alertent, qui nous disent qu'il y a le réchauffement climatique et il y a des gens pour dire « non, tout ça c'est de la foutaise, on va continuer d'aller exploiter, vider la planète de ses ressources, etc. » Donc je pense que c'est important quand même d'alerter très fort aujourd'hui sur ce qui se passe et de le faire justement d'une manière qui n'est pas pessimiste et de proposer une écologie qui soit moins réprobatrice et qui soit juste positive en disant « voilà les amis, c'est un sujet important » et je pense que la musique pour ça, c'est un beau moyen de le faire parce que la musique, ça vient faire passer des messages très forts, mais tout en douceur. Donc je pense que c'est un vecteur très puissant de communication. Je pense que l'éducation a un rôle hyper important à jouer. Et c'est le cas d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai un petit de 12 ans. Il rentre du collège et on leur apprend des chansons liées à l'écologie, bien souvent. Et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a 20 ans, sûrement parce que le sujet était moins grave aussi à l'époque. Mais n'empêche que je trouve ça cool de voir que les enseignants aussi, ça commence là. Je veux dire, l'éducation, c'est le point de départ de tout, je pense, pour ensuite avoir des adultes responsables, conscients, qui savent vivre en société, mais aussi qui jettent pas leurs cigarettes dans le sable, etc. Voilà. J'ai appris à surfer en Guadeloupe. Les vagues de la Guadeloupe sont vraiment mon jardin. Il y a vraiment des lieux où je connais le récif au mètre carré, quoi. Et sinon, je suis beaucoup allé surfer en Indonésie. Alors, je vais plus à Bali du tout parce que Bali, c'est devenu... je ne sais pas comment dire, mais c'est surpeuplé, c'est pollué. C'est devenu un peu le Santorin de l'Indonésie. Mais donc oui, j'aime beaucoup l'archipel indonésien parce qu'il y a des très belles vagues, parce que la culture indonésienne est fascinante. Donc voilà, je dirais que mon berceau aquatique, il est en Guadeloupe. Et puis ma soif d'aventure, elle est vers l'Indonésie. Après, j'ai adoré aller en Australie, etc. Mais j'avoue que je voyage moins aussi par souci justement d'écologie. Et encore une fois, je pense par exemple, il y a des gens pour me dire des fois, oui, mais tu prends l'avion et je dis, oui, c'est vrai. Par contre, je prends beaucoup moins l'avion qu'avant parce que j'ai pris conscience des choses aussi petit à petit. Et surtout, je pense qu'en fait, l'idée, c'est pas de revenir à l'âge de pierre. Par contre, il faut faire les choses en conscience. On se dit, si tout le monde se dit, bah, je prends moins l'avion, je prends plutôt le train que l'avion, je fais un peu de covoiturage, je recycle mes déchets, etc. Et je pense qu'en fait, la solution, s'il y en a une, elle viendra plutôt d'une prise de conscience collective, je dirais plutôt que de quelques initiatives personnelles. Il faut un peu des deux, sûrement. Et aussi, je pense, les grands changements viendront des grandes décisions au niveau des gouvernements. Quand je vois l'UNOC, ce salon qui s'est tenu à Nice, là, sur la protection des océans, moi, sans faire le Gaulois qui critique tout, je trouve que ça ressemblait quand même à une pièce de théâtre. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus des arguments de campagne présidentielle que... plus qu'un salon où des décisions concrètes sont prises, notamment concernant les aires marines protégées, qui en réalité ne sont jamais vraiment protégées quand on regarde. Je crois qu'il y a 2%, c'est fou, il y a 2%, je crois, des aires marines protégées qui sont réellement protégées, dans lesquelles on arrête le chalutage. Chalutage, c'est cette technique de pêche qui consiste à ratisser les fonds, à arracher les coraux, c'est-à-dire que c'est des filets de plusieurs kilomètres qui vont jusqu'au fond de la mer et qui raclent tout, qui récupèrent les dauphins, les tortues, tout. Et ensuite, on dégage des filets, les dauphins morts, les tortues mortes, voilà. C'est scandaleux. Il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Claire Nouvian, qui a monté une association qui s'appelle Bloom Association, et qui a notamment révélé le scandale du thon, enfin du mercure là, dans le thon, et qui se bat pour essayer justement de faire que ces aires marines protégées, dites protégées, soient réellement protégées. En fait, mon association, elle est toute jeune. Avec cette association, j'organise chaque été un festival de musique dans le sud-ouest, où je vis, à Cap-Breton, qui n'a de breton que le nom, puisque c'est dans le sud-ouest, dans les Landes. Et on récolte un peu de fonds et qu'on met dans l'association. Et ensuite, on a différents projets avec de différents ordres de grandeur. On fait des petits ramassages sur les plages, par exemple, de déchets pour essayer de nettoyer. Mais c'est plus symbolique qu'autre chose, hein, parce que dès qu'il y a une tempête, ça revient. Mais on a des projets un peu plus ambitieux, comme celui, par exemple, de construire un petit bateau nettoyeur qui récolte les hydrocarbures à la surface de l'eau et que j'aimerais faire circuler dans les zones fluviales du port de Cap-Breton pour faire surtout de la pédagogie avec les enfants des écoles autour. Donc ça c'est le mouvement bleu et le festival s'appelle Music for Oceans. C'est un beau rendez-vous. J'aimerais bien que ça devienne un gros festival, un rendez-vous festival autour de la sensibilisation à l'importance de préserver nos océans. Une fois, on a défini un petit périmètre de 3 mètres avec mon fils. Et puis on a commencé à creuser pour voir sur 3 mètres par 3 mètres combien de mégots de cigarettes on trouvait. Et de mémoire, on en a trouvé, je crois, 70. Quoi. Là, j'ai été profondément choqué. C'était il y a quelques années, mais tous les hivers, ça arrive sur les plages des Landes. J'allais surfer, je faisais une émission pour France 3, je crois, de mémoire. Et on arrive sur la plage, c'était en hiver, du côté de Haussegor. Et en arrivant sur la plage, en fait, il y avait une marée de billes plastiques. Et je soulève comme ça à deux mains des kilos de billes plastiques, qu'on appelle les larmes de sirène. Alors l'appellation est très très belle, très poétique, mais en réalité, c'est l'enfer parce que c'est ces microbilles plastiques qui sont, je crois, la matière première dans les usines pour fabriquer tout ce qui sera des objets en plastique. Et je ne sais pas comment ces biplastiques se perdent dans la nature. En tout cas, ça c'est une pollution qui est très difficile à maîtriser parce que c'est les micro-déchets plastiques, c'est le pire. Ça se mélange avec le sable et ensuite c'est très compliqué à nettoyer, quoi. Donc, y a une autre réalité qu'on ne peut pas occulter, c'est la disparition de plein d'espèces animales, hein. Des oiseaux marins, des poissons. Alors évidemment, Paul Watson, avec Sea Shepherd, il axe beaucoup la communication autour des baleines parce que c'est symbolique. Il dit lui-même, si on n'arrive pas à sauver les baleines, on n'y arrivera pas, puisque en fait c'est l'animal, comme le dauphin par exemple, qui va toucher le plus facilement les gens. Si on commence à nous parler du mérou à tache, je sais pas quoi, les gens sont moins sensibles en fait, ils se rendent pas compte. Mais il y a des espèces qui disparaissent chaque année. Moi j'adore les tortues, parce que j'en vois beaucoup quand je surfe je trouve que c'est un animal, on dirait qu'il a, la tortue, on dirait qu'elle a traversé les âges et elle est restée préhistorique, quoi. Je trouve ça assez fascinant. J'adore les dauphins parce qu'ils sont très joueurs, ils viennent autour du bateau. Les requins en tant que surfeurs, ben forcément, c'est plus compliqué parce que ça représente un danger, mais le requin, c'est un animal fascinant. Le sujet des requins à La Réunion, c'est donc un sujet assez touchy, assez délicat, parce que effectivement, c'est un exemple à part. Ils ont connu une crise concernant les attaques de requins qui a été très 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 importante. Et il y a différents facteurs qui l'expliquent. Je vais revenir là-dessus ensuite, mais c'est vrai qu'à un moment donné, la population a été divisée parce que des gens comme Paul Watson, qui sont des fervents défenseurs de l'océan, évidemment, ont dit on touche pas les requins. Ils sont dans leur habitat naturel. C'est nous, les humains, les surfeurs, etc., qui n'avons rien à faire là-bas. Il y a des gens qui, du coup, n'ont pas du tout apprécié le discours de Paul Watson parce que la réalité sur place était très compliquée. Ce qui s'est passé, c'est qu'à La Réunion, on a, à un moment donné, interdit la pêche aux requins. La Réunion, elle se trouve pas très loin d'une nursery de requins, c'est-à-dire que les requins viennent se reproduire dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et le Mozambique. Et ensuite, ils vont vers La Réunion, l'océan Indien. Et donc, il y a une concentration de requins bulldog, qui est le requin le plus agressif. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a de la surpêche au large de La Réunion, notamment par les chalutiers asiatiques. Donc, en fait, on vide l'océan de ces poissons. Le requin n'a plus de quoi manger au large, donc il se rapproche des côtes. Quand il arrive sur les côtes, il est attiré par notamment la pollution, puisque il y a eu une mauvaise gestion des déchets à un moment donné à La Réunion. Donc les ravines, elles apportent des déchets, ça attire les requins. Et qu'est-ce qu'on retrouve en première ligne? Les surfeurs sur la barrière de corail qui se font attaquer parce que le requin confond avec les tortues, etc. Sauf qu'une morsure de requin, c'est fatal. Il ne faut pas tomber dans un excès ni dans un autre. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire au final à La Réunion. Ils ont mis en place des vigies requins, c'est-à-dire des gens qui plongent et qui surveillent les requins pour prévenir les surfeurs, etc. Le voyage, pour moi, c'est surtout aller à la rencontre des gens, à la rencontre des cultures, pour s'ouvrir l'esprit et rentrer ensuite chez soi en ayant grandi. Et je pense que si vous avez l'occasion de faire voyager vos enfants, faites-les voyager dans des endroits où les gens vivent avec des difficultés qu'on n'a pas forcément chez nous. Comme ça, vos enfants vont ouvrir les yeux sur le monde et ils finiront leur assiette quand ils auront compris qu'il y en a qui n'ont rien dans leur assiette. Voilà. Donc je pense que le voyage, il est d'abord éducatif avant d'être ludique. Évidemment qu'il est ludique aussi. La vie est belle, la vie est fun. On part à l'autre bout du monde, on prend des vacances. On se fait du bien, mais on n'oublie pas d'apprendre et surtout de comprendre les autres.